Merci beaucoup. Comme le Seigneur est bon, il n'a pas arrêté tout au long de la préparation de cette prédication de confirmer même ce que vient de dire Daniel. Vous vous souvenez, dimanche dernier, je prêchais sur l'affliction ou les crises et je disais, nous devons nous réjouir. Et ce matin, le titre de ma prédication, c'est « La justification par la foi ». Et dans la prière, avant ce temps, on a eu un temps fort de prière avant notre célébration. Et puis une parole d'Étienne nous dit « Il faut que l'Église prenne sa place. Il faut que l'Église exerce son ministère de pardonner les péchés. Il faut que les justes prennent leur place. Cette crise a pour but de révéler les justes. Cette crise, les crises de nos vies, chacune de nos vies, ça peut être personnel, familial, quel que soit ce que vous traversez, le Seigneur le met en place pour vous révéler, pour vous manifester, pour que vous rentriez dans votre pas. Nous sommes des justes. On va étudier ce que la Bible dit de nous. Nous sommes justes et les justes doivent prendre leur place et exercer leur influence, leur autorité, et ce que Dieu a placé entre leurs mains. Il ne s'agit pas dans cette crise juste de se replier, de dire « sauf qui peut, qu'est-ce qu'on peut sortir de là et nous protéger ?» Au contraire, c'est le moment d'être manifesté et puis d'exercer l'autorité. Alors, ce que nous dit Daniel est tellement encourageant pour moi dans le sens où, imaginez, ça va jusqu'à pardonner les péchés. Ce texte, c'est un texte qui mérite vraiment de la méditation. Ce n'est pas mon texte de ce matin, mais on pourrait y revenir. Jésus nous confie une mission, il compte sur nous. Comme vous savez, à un moment donné, il y a quelqu'un pour qui il doit prier, c'est un paralytique, et puis il lui dit, tes péchés sont pardonnés. On se dit, mais qui es-tu toi pour pardonner? Dieu seul peut pardonner les péchés. Et pour autant, Dieu veut passer par nous, imaginez, nous les justes. Qui peut pardonner si ce n'est Dieu? Dit les pharisiens à ce moment-là. Eh bien, figurez-vous, parce que nous sommes des justes, Dieu nous donne l'autorité de pardonner. Est-ce que vous me suivez là ce matin? Ça va loin. Il nous faut prendre notre place, comprendre le mandat que Dieu nous a confié, l'autorité que Dieu nous a confiée pour l'exercer. Si nous n'en avons pas conscience, on va vivre pour nous-mêmes. Alors que ces temps sont des temps où Dieu veut que nous vivions pour son royaume et qu'ainsi nous soyons des ambassadeurs mandatés pour faire ce qu'il nous dit de faire. Il ne s'agit pas d'aller dans la ville de Montpellier rencontrer les gens et dire « sois pardonné ». On va être conduit par le Saint-Esprit. Mais ça va nous demander de prendre conscience de qui nous sommes pour que là où nous sommes, le Saint-Esprit nous conduise à exercer ce type de ministère, à rencontrer des personnes, à les libérer, à les dégager. Parce que Jésus, quand il a pardonné, la guérison est venue. Quand il a pardonné à ce paralytique, il dit, écoutez, c'est aussi simple de dire, sois pardonné, que sois guéri, lève-toi et marche. Et vous savez, si on prend conscience de notre mandat, que nous sommes des justes, que Dieu oint, qualifie, on va rentrer dans cette part, on va rentrer dans cette saison. Je veux juste citer cette scène biblique d'Abraham, et je finirai par ça, on finira par ça. On a été conduits à prier pour la ville, Marie-Hélène l'a fait, on ne s'était pas concerté, mais on va reprier pour notre ville tout à l'heure. Abraham intercède pour Sodome et Gomorre, deux villes. Et je voudrais nous faire toucher du doigt, prêter attention sur le fait qu'il demande à Dieu, si jamais, et il commence par 50, il finit par 10, si jamais il y a juste 10, quoi? Dites-le plus fort. Juste dans cette ville. Est-ce que tu puniras, tu frapperas cette ville de la même manière? Il dit non, non, s'il y a des justes, je ne peux pas frapper la ville. S'il y a des justes. Et en fait, l'intercession d'Abraham, qui est une intercession qui pourrait nous inspirer, c'est de prier Dieu que les justes se lèvent pour protéger la ville. Que les justes se lèvent pour exercer leur ministère. S'il y a des justes dans une ville, Dieu dit, je la préserverai à cause des justes. Pas juste parce qu'ils sont justes, mais parce qu'ils le sont, ils ont conscience de qui ils sont et qu'ils exercent en ce qui nous concerne. Vraiment le ministère que Dieu nous a donné en tant que le juste. Et c'est une clé biblique très importante. Alors je vais juste vous demander d'avoir le courage avec votre coude de dire à votre voisin, tu es un juste. Tu fais partie des justes qui doivent exercer le mandat et l'autorité que Dieu a donné. En fait, la théologie, la doctrine de la justification par la foi est fondamentale. Je vais faire un tout petit peu d'histoire. Je vais enseigner sur des vérités bibliques. Cette prédication m'est venue pendant une discussion avec des amis où on parlait de l'Église cette saison. Et puis on en est venu à parler de la nécessité de l'enseignement, des doctrines fondamentales de la Bible. Parce que très souvent dans nos églises, on prêche beaucoup sur des doctrines qui sont secondaires. Pas assez sur des doctrines fondamentales. Moi je crois que le Saint-Esprit nous conduit à revenir sur des doctrines fondamentales parce que si nous connaissons la vérité fondamentale de la parole, nous rentrerons, nous saurons qui nous sommes et ce que nous avons à faire. Ça va activer l'autorité, l'onction, la grâce que Dieu a placée sur nous pour que nous soyons ce que Dieu dit que nous sommes. L'importance de revenir sur ces vérités, parce que c'est ça qui nous équipe, c'est ça qui nous active, c'est ça qui nous donne une pleine légitimité, une sécurité dans la conscience de ce que nous sommes. Nous sommes des justes. Et en fait, d'où nous vient cette doctrine? Elle nous vient de Martin Luther, le réformateur, qui en 1514, je crois, a eu, vous savez, il était moine, mais il était terrifié par la peur d'aller en enfer. Terrifié tellement que dans le contexte où on gagnait notre salut par des œuvres, et plus que cela, par de l'argent, on devait payer pour avoir l'assurance et la garantie du ciel. Et il vivait avec une terreur terrible. Il aimait Dieu, il jeûnait, il priait, il criait, il faisait tout ce qu'il avait à faire. Et plus il le faisait, plus il avait conscience qu'il n'arrivait jamais à satisfaire la justice de Dieu. Il n'y arrivait pas. Et dans ce contexte, il se dit, mais ce n'est pas possible. Ce qu'on est en train d'enseigner et faire à l'époque, mais c'est une abomination. Il se met à étudier, en particulier, l'épître de Romains. Et là, la révélation de la justification par la foi. C'est-à-dire, ce ne sont pas nos œuvres qui nous permettent d'être justes devant Dieu. C'est le fait d'avoir foi en l'œuvre de Christ à la croix. Nous le savons, nous tous ici, quand nous nous donnons à Dieu, le fondement de ce don, c'est de comprendre la grâce. Jésus est mort pour que nous puissions être justifiés devant Dieu. Je veux passer du temps sur cela, parce que très souvent, nous croyons, nous l'oublions. Pour l'acte d'entrer dans le ciel, d'entrer dans le salut, d'avoir l'assurance de la vie éternelle, nous acceptons la foi. Nous acceptons que c'est par la foi que nous sommes justifiés. Mais il nous faut continuer et demeurer et comprendre les tenants et les aboutissants du fait que nous sommes des justes. Nous sommes justifiés. Et donc, après coup, c'est Jean Calvin qui prend le témoin. Et puis, il appelle la justification par la foi le pivot de toute doctrine. Et Martin Luther disait une chose, c'est que si une église, une personne ne comprend pas, n'a pas la révélation de la justification par la foi, eh bien, il est mort ou il est vivant. Une église, elle est vivante que si elle croit véritablement, profondément, la justification par la foi. Je suis juste par la foi, pas par mes œuvres. Et j'ancre ma vie, je fonde ma vie sur cette vérité. Ainsi, je suis réellement juste. Pas simplement un titre. Non seulement je le sais, mais je me mets à agir comme un juste. À produire les œuvres d'un juste. Bien sûr qu'il y aura des œuvres à produire qui vont témoigner que tu es juste. Mais ce n'est pas ces œuvres qui te justifient. Ça paraît subtil comme ça, mais je peux vous dire, c'est fondamental. Parce que très souvent, Paul il va loin, hein, il dit, si nous sortons de ça, nous sommes déchus de cette fameuse grâce qui nous donne le droit d'être juste et d'exercer ce mandat. Et on va y revenir ce matin. Alors, du coup, je le rappelle, parce que je me dis, notre église est fondée sur celle-ci en particulier, dans ce sens où toutes les églises sont fondées sur la grâce. Mais plus j'étudie cette révélation de la grâce et de la justification, plus je suis en train de dire le fondement des fondements de cette église, c'est la grâce de Dieu. Et nous avons fait un travail, nous continuons de le faire en ce moment sur le slogan de notre vie d'église. Eh bien, on a trouvé le moyen. Par ce travail, l'évidence, c'est le fondement de cette église, c'est la grâce de Dieu. Et on va le partager, le rappeler ce matin. La grâce de Dieu est la source de toute justification, de la justification. Le sang de Christ est le prix de la justification. Je vais continuer. La résurrection de Christ prouve la justification. Tout ceci, on le trouve dans Romains. La foi est le moyen qui nous unit au Christ et nous donne la justification. En fait, quand on vient au Seigneur et qu'on entend le message de l'Évangile, on sait que nous sommes tous pécheurs. La conscience de notre péché nous donne une conviction pour nous tourner vers lui et de dire « Sans toi, je ne peux pas être sauvé. » Christ vient, il dit « Je suis venu pour être une rançon. Mon sang est le prix par lequel, si tu crois dans cet acte de substitution, je me mets à ta place. » La clé de la foi et de la révélation de la nouvelle naissance, c'est « J'ai révélation que Christ l'a fait à ma place. » J'ai foi qu'il a pris ma place. Je devais mourir. Vous savez, il se peut qu'il y ait des gens qui se sont convertis, pris leur baptême, mais n'ont pas eu cette révélation. Et c'est fondamental. On peut même le dire intellectuellement, mais ne pas en avoir la révélation. Quand je me suis converti, c'était par révélation. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je dis, mais pourquoi tu as fait ça pour moi? C'est par amour, c'est par grâce. Cette grâce a bouleversé mon être entier. Je mérite la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On ne peut pas demeurer dans la gloire de Dieu, vivre après la mort, s'il n'y a pas un prix qui soit payé. Et Jésus dit, c'est moi, je viens, je paye ce prix. Celui qui croit que ce que lui a fait est suffisant pour que j'aie cette vie éternelle, les textes bibliques sont clairs, et notamment 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, Jésus, il a été fait péché pour que, à ce moment-là, quand j'en ai la révélation, je devienne justice de Dieu. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Comprendre que Jésus a pris ma place, je méritais la mort, il l'a prise intentionnellement, volontairement pour moi. Je place ma foi dans cet acte, dans cette personne. Je le crois tellement fort, je suis en lui. Hein. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire que tu as la foi que tu es uni en sa mort et tu es uni en sa résurrection. Cette union fait que tu deviens justice de Dieu. Donc ça veut dire que ce n'est même pas qu'il t'a pardonné, c'est que tu deviens juste. J'insiste sur cela. Tu deviens juste. Les vertus de Christ viennent sur toi. Sa justice vient sur toi. Et c'est pas, c'est, on va le voir les conséquences de cela. Tu es un juste et tu l'es toujours. Tu l'es pas que quand tu pèches pas, tu es toujours juste. Son acte est suffisant pour tes péchés passés, présents et à venir. Tu es juste. C'est ta nature. C'est ce que tu es devant Dieu. Devant Dieu, tu l'es. Et vous, je vais vous dire, ce qu'on est en train d'étudier, l'importance d'en avoir la révélation et de grandir dedans, va faire que quand le diable va vouloir te rappeler tes péchés passés, tu auras une réponse à donner. Quand il va même te rappeler tes péchés présents ou même à venir, tous les péchés ont été traités en Christ. Ce qui fait que dans ton statut, dans ta position, tu es juste. Et tu dois agir comme un juste, penser comme un juste, fonctionner comme un juste. Et, ça, et du coup, dans ton être intérieur, il y a tout un processus qui prend toute la vie pour que ce que tu es, tu le deviennes. Ça s'appelle la régénération d'abord pour la nouvelle naissance et la sanctification par la suite. La sanctification fait partie du processus. Mais c'est la sanctification d'un juste, de quelqu'un qui est juste, déjà, en Christ, il est juste. Et toute sa vie, de maintenant jusqu'au ciel, c'est graduellement une progression pour devenir ce que tu es déjà. Oh là là, vous avez loupé une occasion là. Tu es juste. La conscience de cela change tout. Dans ton rapport à toi-même, dans ton rapport à Dieu, dans ton rapport aux autres, dans ton rapport au diable, dans ton rapport à ce monde. Ce monde crie après la révélation des justes. Crie après la manifestation de ces justes. Elle nous attend. Notre ville nous attend, notre région, notre pays, cette saison attend le corps de Christ. Les justes qui prennent conscience de qui ils sont et qui se déploient. Parce que pour le moment, là dans ce qu'on vit, il y a des complexes, des choses qui sont retenues, confinées en nous, qui doivent être libérées. Alors les conséquences, c'est quoi? La justification n'est pas un lent processus. Ça c'est très important de distinguer la justification de la sanctification. C'est un statut. La justification ne change pas. On ne peut pas grandir dans la justification. D'accord? On ne peut pas perdre sa justification. C'est un statut. Tu l'es. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas quelque chose de graduel dedans. C'est quelque chose qui t'est donné au moment où tu te convertis et que tu en as la révélation. Jésus parle sur toi, tu es injuste. Et ta mentalité doit absolument le prendre et l'intégrer à ta vie pour que ça déclenche tout un processus de transformation intérieure. Mais on confesse, je suis injuste, je ne suis pas. Alors, il y a des textes bibliques qui nous disent, nous sommes pécheurs dans notre nature ancienne. Mais la création nouvelle qui naît au moment de ta justification, il y a une nouvelle création qui naît. Elle est juste. Ce que tu es véritablement, ton esprit régénéré est juste. Et tu grandis dans ton ancienne nature, il y a une transformation, il y a une mort, une transformation pour que tu deviennes de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus. Mais ta nature, ce que tu es injuste. Tu es injuste. Est-ce qu'on peut le confesser ensemble ? Je suis injuste. Encore, je suis injuste. On peut le faire ensemble ? Je suis injuste. Encore. Je ne suis pas injuste, je suis injuste. Alors, on va prendre des exemples bibliques. La notion de justice dans la Bible tourne autour de la métaphore du vêtement. Vêtement d'impureté et vêtement de justice. Vêtement de péché et vêtement de délivrance, de justice. On vient, on se dépouille de notre ancienne nature et au moment où on vient en Christ, on est revêtu de sa nature et Dieu nous voit comme des justes. Il nous voit au travers de Jésus. C'est fondamental ce que je suis en train de vous dire. C'est très important. Alors on va aller chercher dans Genèse 27, l'histoire qui me bouleverse pour illustrer, vous savez. Il y a des vérités bibliques dans l'Ancien Testament qui viennent nous donner des révélations concrètes pour que ça nous parle de ce qu'est la justification par la foi. Je vous fais l'histoire courte. Vous allez voir, on a quatre protagonistes. Il y a le papa, Isaac, qui doit bénir le fils aîné, qui est Ésaü. Isaac et Rebecca ont eu des jumeaux. Et Dieu donne révélation à l'avance à Rebecca que c'est Jacob qui aura la bénédiction et la postérité par lequel Dieu va passer pour que Jésus arrive. D'accord ? La bénédiction d'Abraham passe à Isaac. Isaac, ça doit passer par Jacob. Sauf que Jacob, ce n'est pas l'aîné. Il n'a pas le droit d'aînesse. Ce n'est pas lui qui doit, c'est pas lui qui devait hériter. Alors du coup, à un moment donné, quand Isaac est en train de vieillir, il appelle Ésaü, celui qui devait avoir la bénédiction, et qui est le fils aîné, la caractéristique de ce que je vais dire de Jésus pour nous ici. Et puis Jacob, ce sera nous. Donc Isaac veut bénir Ésaü, et au moment où il veut le faire, il lui dit, la Bible nous dit dans Genèse 27:1, Isaac ne voit plus, il est aveugle. Je veux vous dire, c'est une illustration forte du fait que Dieu nous voit au travers de Jésus. Il ne nous voit plus dans notre nature, il nous voit au travers de Jésus. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous fais l'histoire courte. Ésaü devait hériter la bénédiction et Isaac lui dit « Va chasser du gibier, cuisine-le, ramène-le-moi, je vais manger, après je vais te bénir. » Rebecca entend cela parce qu'elle a entendu la parole de Dieu que ce serait Jacob qui hériterait et elle fait preuve de tromperie. Et elle dit à son fils Jacob, grosso modo, je vais cuisiner le bon repas de ton papa, mais toi, revêt-toi des habits du fils aîné. Plus que cela, il se met des poils dessus parce que Ésaü était poilu et il avait une odeur spécifique, des champs, la Bible nous dit. Hein. Ses habits avaient l'odeur des champs parce que c'était un chasseur. Et du coup, Jacob vient porter le plat à son père. Et le texte, c'est vraiment rigolo parce que son père entend la voix, il ne le voit pas, il entend juste la voix. Il dit, c'est bizarre, on dirait la voix de Jacob, mais il y a deux choses qui font qu'il le bénit, il le sent et il sent l'odeur de son fils aîné. Il le touche et il touche, il dit, c'est les poils de l'aîné. Et aveugle, il le bénit, croyant que c'était le fils aîné. Je vais vous dire. C'est exactement ça qui se passe en termes de justification. Nous nous revêtons de Christ. Même jusque les poils sont là sur nous quand on s'approche de Dieu. Et Dieu
Dieu
sait, dans le sens, il connaît toutes choses. Mais parce que c'est son fils aîné qu'il bénit, nous sommes bénis. Parce qu'il est en train de bénir son fils est béni éternellement et il le bénit de toute éternité. Et il vient, quand nous nous approchons avec foi du Père, qui intentionnellement ferme les yeux sur qui nous sommes, parce que s'il les ouvre, il le sait, mais là il voit Jésus. Et quand on s'approche du Père au nom de Jésus, revêtu de Jésus, en disant nous sommes en Christ, nous sommes des justes qui méritons la bénédiction que par nous-mêmes nous ne pouvons pas mériter. Mais parce qu'on vient revêtu du sang de Jésus, revêtu de sa justice, la vêtement de justice, quand on s'approche avec assurance et qu'on demande la bénédiction avec l'audace de Jacob, l'audace de Rebecca, eh bien la bénédiction de Dieu vient sur nous. On peut venir avec assurance, parce que la Bible nous dit, ça a annoncé par avance, que si nous venons avec la justice, si nous venons en Christ, parce que très souvent, vous savez, on pourrait venir auprès de Dieu avec notre propre justice, avec nos propres besoins, avec notre propre nature. Moi, je voudrais nous dire, il y a des exaucements qui ne passent pas parce que nous ne sommes pas en Christ. Parce que nous ne savons pas, quand nous nous approchons de Dieu, nous méritons cette bénédiction pas à cause de nous-mêmes, mais notre foi dans ce que Christ a accompli. Nous sommes des justes et la bénédiction vient, ça reste une grâce, un don de Dieu, mais elle vient quand notre foi est activée dans l'œuvre de Christ pour nous. C'est comme si Ésaü à ce moment-là, il était mort et il avait pris ses habits. Jacob s'en revêt. Le Père sent l'odeur du sacrifice de Jésus. Le Père sent l'odeur. Quand nous venons, il sent l'odeur de son fils aîné. Il le sent. Il dit, à cause de cela, je bénis. Je veux m'assurer que là, je viens au nom de Jésus, en invoquant le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus. Quand le Père sent cela, la bénédiction est libérée. Quand je viens dans l'assurance de cela, et que même ça va jusque dans les poils, dans ma nature profonde, et que c'est en lui que je suis, le Père étend sa main, il amène une bénédiction extraordinaire, il donne toutes les bénédictions. Quand le fils aîné, il revient, il lui dit, Père, tu voudrais pas quand même me bénir? Il pleure, il dit, j'ai tout donné à Jacob, j'ai tout donné, je peux plus rien te donner. Ben oui, tu seras l'esclave de ton frère, etc. C'est la malédiction quasiment. Mais Jacob a reçu la bénédiction. Je vais vous dire, c'est une bonne illustration, c'est que il fallait qu'après coup, Jacob rentre dans toute une période d'épreuve où lui-même a été dupé et où jusqu'à ce que son nom soit transformé. Il savait qu'il méritait, enfin, qu'il était appelé à la bénédiction. Il a dû prendre les habits de son frère, c'est-à-dire être juste, pas par lui-même, mais par les bénéfices ou par les mérites de son frère, qui avait, lui, le droit d'aînesse. Il a eu le droit d'aînesse, il s'est revêtu, il a usé de ruse, mais ça, c'est la justification. La sanctification, c'est la transformation de Jacob pour qu'il soit transformé en Israël. C'est tout un parcours dans nos vies, c'est une représentation de ce que le chrétien doit vivre, deux choses, mais l'importance de marcher dans notre transformation, dans notre sanctification, sous une réalité de justification. Nous sommes en Christ et nous devons confesser que nous sommes des justes. Notre mentalité est de j'ai droit à cette bénédiction. Je vis comme un juste, je marche dans cette justice et pour autant, il y a une œuvre que Dieu continue dans notre intérieur de sanctification. Il a hérité la bénédiction. Comme nous, nous devons l'hériter, pas parce que nous en avons droit, mais parce que on a réussi à venir auprès du Père dans le Fils aîné, en Jésus, et avec foi et avec autorité. Alléluia. Je voudrais relire ce texte de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça vient toucher à notre rapport à la culpabilité. Vous savez, quand un juste est éprouvé, sa réaction est tout autre que quand un pécheur est éprouvé. Quand un juste traverse une crise, sa réaction est tout autre. Pour arriver à regarder une crise et dire, chouette, c'est une occasion de grandir. C'est une occasion pour que mon être intérieur soit traversé, progresse, ressemble de plus en plus à Christ. C'est une lecture qui est toute... Vous savez, il n'y a plus de crainte du rejet de Dieu. Je suis en sécurité parce que Dieu me voit comme un juste. Je ne crains plus. Je suis plus dans la peur. Ma foi est ferme. Ma foi est établie. Je peux lire les circonstances en disant, il m'est favorable. C'est un Père qui m'a justifié. Il ne me veut aucun mal. Je ne lirai pas les circonstances de ma vie en me demandant si Dieu me veut du mal, m'a rejeté, m'a abandonné. On l'a chanté ce matin. Il est en train de me former. La lecture d'un juste éprouvé, c'est que Dieu est en train de me former. Je sortirai de cela vainqueur. Je sortirai de cela transformé. Je sortirai de cela équipé. Tout est une occasion de voir la main de Dieu d'une manière juste. Il n'y a pas d'occasion dans nos vies parce qu'on est juste. Dieu ne peut pas agir contre nous et nous vouloir du tort parce que nous sommes justes devant lui, à ses yeux et à son cœur. La notion de justice est fondamentale. Nous sommes ses enfants. Et tout le reste, on le sait. Mais sans justice, Dieu ne peut pas rentrer en communion. La bénédiction ne peut pas venir sur nous. C'est pourquoi cette notion est fondamentale. Elle est fondamentale. Alors du coup, tous ceux qui luttent avec la culpabilité ou qui, quand ils sont éprouvés, ont du mal, c'est simplement que cette révélation n'est pas assise au plus profond de vous. C'est simplement qu'il y a besoin d'un attouchement, d'une révélation, de quelque chose où j'encourage à vraiment chercher Dieu pour cela. Parce que vos réactions révèlent le niveau de révélation. Je répète ceci. Vos réactions dans vos vies, vos raisonnements, ce qui est à l'intérieur de vous, révèlent le niveau de révélation de cette vérité biblique. Je suis un juste. Et quand je m'approche de Dieu, il y a une assurance dans la prière, il y a une audace, il y a une autorité dans la prière qui est absolument tout autre à cause de cette révélation, à cause de cette grâce. Avant qu'on prie, je veux donner un autre exemple dans la Bible de quelqu'un qui sait qu'il est juste devant Dieu et qui se met à prier même en face de son péché. Même en face des crises difficiles qu'il a vécues. Il s'agit de David. David commet deux grands péchés bibliques qu'on connaît, le meurtre et l'adultère. Et quand il est devant Dieu, il lui dit, si tu me pardonnes, je serai pur comme la neige. Je deviendrai juste à nouveau. Et David, dans son rapport à la culpabilité, à la honte, aux actes qu'il a commis, il dit, si Dieu me pardonne, c'est suffisant, je me relève promptement. Il commet l'adultère. Il commet le meurtre. Je ne sais pas quel type d'œuvre, de péché vous avez pu commettre. Mais je voudrais vous encourager, ou avec lesquels vous êtes en lutte. Ça peut être des péchés redondants, ça peut être des tas de situations, des crises que vous vivez, elles sont régulières, vous avez l'impression de ne pas vous en sortir. C'est un rapport, c'est un exemple, David, dans la Bible, qui va nous aider ce matin à pouvoir dire, je peux me relever si Dieu me pardonne. Si Dieu dit, je te pardonne, tu es juste, si tu viens en Christ, que tu confesses ton péché, et puis que tu es pardonné, Dieu déclare ta justice, rappelle ta justice, et tu peux te lever comme un juste, marcher, fonctionner comme un juste. Promptement. David confesse son péché, et puis il se lève. Il n'y a pas un mois, il n'y a pas un an, il n'y a pas deux ans de deuil, soi-disant, ou de dire, oui, je vais prouver que j'ai bien compris la gravité de mon péché. Il dit, j'ai péché contre toi seul, le psaume 51. Mais si tu me pardonnes, heureux l'homme à qui son péché n'est pas imputé. Il est déclaré juste devant Dieu. Il se lève. Et ce matin, je veux appeler des justes à se lever. Ce matin, je veux appeler des justes à se lever. Ce matin, j'appelle des justes de s'approcher du Père avec assurance. Ce matin, j'appelle des justes à habiter la maison de Dieu, dans l'intercession. Ce matin, j'appelle des justes qui vont se tenir devant Dieu en faveur de cette ville. Ce matin, j'appelle des justes qui ont conscience qu'ils ont des choses au nom du Seigneur à donner, à déverser, à manifester autour d'eux là où Dieu les a placés. Ce matin, j'appelle des justes à fléchir le genou en intercession, non seulement pour eux, mais pour cette ville, pour que le pardon se manifeste, que la grâce de Dieu se manifeste. Un juste a prié pour des justes. Abraham a prié pour des justes. Je prie ce matin. que nous les justes, nous rentrions dans notre vocation. Nous rentrions dans notre vocation de demander la faveur de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, je te prie que tu viennes te manifester. Viens glorifier Jésus, viens manifester la parole et l'incarner dans les esprits. Saint-Esprit, je te prie toi-même de venir confirmer maintenant même que nous sommes justifiés par la foi en l'œuvre de Christ et que ça déclenche notre posture. Tu dis, ta parole dit, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. C'est là notre demeure. Et je te prie que ce positionnement soit activé, soit comme dans les consciences activées, pour pouvoir exercer le ministère dans cette ville. Pour pouvoir être sacrificateur sur cette ville, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, conduis-nous vers le Père comme Rebecca conduit Jacob vers le Père. Et nous venons revêtus de Jésus. Le Seigneur dit, je vous bénirai, je ferai de vous une source de bénédiction. Pour ceux qui s'approchent dans l'Esprit du Fils, ceux qui s'approchent par l'Esprit de grâce, je vous bénirai, je ferai de vous une source de bénédiction. Approchez-vous de moi. C'est un appel à s'approcher du Père dans le Fils et à plaider non seulement pour vous mais pour les autres. Il y a un esprit de supplication et de grâce qui veut venir sur l'Église pour intercéder comme des justes. On n'intercède pas comme des pécheurs, mais on intercède comme des justes devant Dieu. Comme Abraham qui était un juste choisi de Dieu. Il a été justifié par sa foi, la parole de Dieu nous dit. À cause de cette foi, il s'est tenu comme un juste devant Dieu. Et il a plaidé pour les autres justes, mais aussi pour la ville de Sodome et Gomorre. Pour que la grâce de Dieu se manifeste. L'Esprit de Dieu est là, et puis il nous amène auprès de, il nous conduit auprès du Père, en Jésus. Et venons avec assurance, plaider, demander la bénédiction d'en haut et la faveur de Dieu. Alléluia. Je vous invite à élever vos voix, à accueillir cela. En disant, c'est en tant que juste que nous prions, mais nous sommes dans la foi. C'est en Jésus, le juste, que nous prions, que nous plaidons dans ce temps pour nous-mêmes, pour ce que nous sommes en train de vivre, pour que notre regard change sur ce que nous sommes en train de traverser, personnellement, comme en tant que famille ou en tant qu'église, mais aussi pour cette ville, pour que la faveur de Dieu se manifeste. Alléluia.